sommes au pied de Notre-Dame de Domanovan. Nous nous préparons à prier aujourd'hui, toute la nuit, c'est pour ça que je dis la messe du dimanche aujourd'hui. Et pas la messe comme d'habitude du samedi. On est content de se retrouver ici, on fait toujours cet effort, parce que c'est un effort facile, hein. C'est un peu comme quand on fait un effort quelquefois de donner une caresse à un enfant qu'on aime. C'est un effort qui est facile, dont on a besoin. Et pourquoi? Parce qu'on a besoin de... On a besoin de vivre, quoi. Le contraire de la vie, c'est l'enfermement. On s'enferme. On se replie sur soi, et c'est ça qui est un petit peu difficile. Sur la terre, c'est vrai. Et les escargots sont là pour nous le montrer. Ils s'enferment dès qu'on les touche. Ce qui montre bien quand on s'enferme, c'est parce qu'on a peur. Et là, on médite en ce moment la question de l'amour qui s'exprime librement à travers la signification sponsale du corps. L'amour qui s'exprime, il est libre, il n'est pas gêné, il n'a pas peur. Il est pur, il est immaculé, il est limpide, il est humain. Au contraire de l'image qu'on en a. Pourquoi? Parce que la première rencontre qu'on a avec l'amour humain, c'est toujours... les premiers contacts qu'on en a sont toujours des contacts qui sont pas purs. Et les premiers contacts qu'on a dans le domaine de l'affection aussi sont toujours mêlés de concupiscence et d'orgueil et aussi de puissance. Un désir de posséder, un désir d'être satisfait pour soi-même. Alors, ça fait beaucoup de choses ignobles qui viennent souiller l'amour. Et c'est pour ça que le corps réagit immédiatement. Par la honte et par la pudeur. Et cette réaction est saine. Mais en même temps, elle n'est pas normale. Hein, c'est un peu ce qu'on a regardé les fois précédentes, comment ça se fait que par rapport à notre corps, il y a la honte, la pudeur, ça c'est très bien. Mais en même temps, pourquoi? Parce que c'est un moment d'arrêt qui nous oblige à dépasser la peur. Et à condition que la peur ne soit pas d'aller de l'avant malgré la honte et la pudeur, mais de répondre au message de la honte et de la pudeur pour revenir à l'origine d'un amour entièrement libre, mais d'une liberté originelle. D'une liberté originelle et d'une liberté qui sort directement, de manière immaculée, de la grâce et de la main de Dieu. Et ça, c'est tout notre effort. C'est ainsi, essayer de méditer justement comment la différenciation sexuelle, comment la différenciation de l'homme et de la femme, du masculin et du féminin, devraient et effectivement s'explicite dans quelque chose qui devient indissoluble. Il devient indissoluble parce qu'il ne vient pas de l'homme, il ne vient pas de la femme, il vient d'un acte qui les dépasse. Il vient d'un acte qui est sacré, il vient d'une source qui ne vient pas d'eux et qui jaillit dans l'unité des deux. C'est une bénédiction. C'est beau, hein? C'est vrai, c'est beau. C'est... c'est très beau. Et c'est très intéressant en plus, et c'est très. Je suis tout à fait d'accord que c'est pas. C'est une méditation qui. Dans laquelle il est difficile de rentrer parce que on a toujours devant nous, à chaque mot, à chaque phrase, à chaque évocation, on a toujours devant nous nos échecs, on a toujours devant nous nos corruptions, nos concupiscences ou nos réactions primo-primies, de sorte qu'on a à la fois la lumière libératrice qui illumine la lampe de notre différenciation sexuelle, de notre, la signification postale de notre corps, et en même temps, il y a quelque chose en nous qui fait qu'on éteint la lampe. Parce qu'on l'avait déjà éteint avant. Ça s'appelle un flashback, je ne sais pas comment dire. Et du coup, il y a le doute qui s'installe. Et on se dit, mais... Et le doute porte sur le fait qu'on ne fait pas confiance à Dieu. Allez, dans le péché originel, voir Adam et Ève, la tentation, elle porte sur ce fait que Dieu peut être reçu comme une limitation. Alors qu'au contraire, il est... Alors qu'au contraire, Dieu est... Dieu n'est pas une limitation dans le domaine, justement, de l'unité de l'homme et de la femme. Non seulement il n'est pas une limitation, c'est pas lui qui va mettre des arrêts, mais vous allez mettre des obstacles, vous allez mettre des barrières, vous allez mettre une distance, vous allez mettre des règles, vous allez mettre... Bien sûr qu'il y a des règles. Mais ces règles sont intérieures, elles ne sont pas extérieures. Et on a toujours la tentation de prendre Dieu comme une limitation. Donc Dieu est exclu du rapport entre l'homme et la femme, dès lors qu'il y a un amour puissant entre eux. Comme si Dieu s'y introduisait, il viendrait limiter la liberté de l'amour, sa force, sa puissance, ou son incarnation. Et c'est là-dessus que Satan a joué, voyez. Il a dit, mais non, Dieu n'est pas... Dieu t'a dit de ne pas prendre de l'arbre de vie, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais non. Alors, le doute dit, mais non, Dieu vous limite, si tu manges, tu seras comme Dieu. Si vous êtes tous les deux tout seuls sans lui, vous irez beaucoup plus loin. Percevoir Dieu comme une limitation à... C'est une grande course, une grande cavalcade. Dieu met le poignet sur le mort du chemin. Ça, c'est la tentation. Et on a toujours un petit peu cette tentation. On va dire, quand même, on ne va pas mettre le Seigneur là-dedans. Curieusement, vous voyez, quand il y a des gens qui sont mariés, quand on a affaire à des ménages, vous voyez, qui vivent ça, c'est une idée profondément, fidèlement, tout ça. C'est surtout la femme qui reçoit, qui ressent cette tentation. C'est la femme. Parce que si son époux est très profondément englouti en Dieu, la femme en éprouve une inquiétude, une jalousie. Et elle se sent frustrée. Et quelque part, elle en veut même à Dieu. Et ça, c'est un phénomène extraordinairement curieux. C'est un phénomène qu'on ne trouve pas ordinairement chez l'homme. La femme, bien sûr, mais on va essayer d'expliquer, bien sûr. La femme, bien sûr, elle est contente si elle est très, très croyante que son mari vit de l'union à Dieu. Mais si son âme devient saint, et qu'elle est arrivée seulement au premier degré d'union transformante, alors ça commence à se compliquer sérieusement pour elle. Et cette tentation revient. Pourquoi? Pourquoi c'est comme ça? C'est constant, hein? Ça c'est une règle absolue. C'est constant. On a toujours remarqué ça. Alors du coup, l'époux devient un martyr, tu vois. C'est extraordinaire ça. Ce qui ne veut pas dire, mon cher ami, que faut surtout pas devenir un saint, sinon. C'est que dans l'unité spensale, il y a quand même, à cause justement de du caractère flamboyant et splendide de la femme, il y a quelque chose qui fait que c'est elle qui donne le ton. C'est elle qui prend l'initiative du côté de la pureté, du côté de la limpidité, du côté de la profondeur, du côté de la spiritualité du don physique du corps. C'est elle qui donne le ton. Donc, si l'homme en est bien incapable, et nous l'avions vu la fois précédente, dans l'échange de l'accueil et du don, lorsque le corps est présent, eh bien, la femme, si elle aime profondément, c'est une chose, mais si deuxièmement, elle aime avec un degré de pureté très grand. Donc, du point de vue de l'amour, hein, et du point de vue de l'intériorité. Alors, l'homme, lui, il le découvre à ce moment-là. Il y a une perception de l'homme, de la manière plus ou moins profonde d'une femme de se donner. C'est ce qu'on avait déjà dit en parlant de commotion. Une commotion, c'est une découverte. C'est une découverte, on ne découvre pas que quand l'homme découvre qu'une femme se donne comme ça, elle s'abandonne, elle se livre, il ne découvre pas que tiens, il est aimé par quelqu'un et du coup ça le touche, c'est pas ça. C'est pas ça du tout. Mais il découvre une profondeur dans la manière de se donner qui transcende la pudeur et l'honte, qu'il ne connaît pas. Et du coup, ça produit à l'intérieur de lui une catalyse, si vous voulez, une unité, une unification, un rassemblement, une lumière aussi, une prise de conscience, mais elle est ici, la prise de conscience, vous voyez, entre les entrailles et les reins, comme dit la Bible. Et du coup, tout est absorbé en lui et transformé. Et apparaît la signification sponsale du corps masculin. Mais si la petite jeune fille, même si elle est adulte, si elle n'est pas profonde, si elle n'est pas pure, mais vous savez, ne vous inquiétez pas, l'homme le perçoit aussi très bien. Il le perçoit très bien. Ce qui n'est pas le cas, vous voyez, ce phénomène de perception, de contemplation, si vous préférez, je préférerais dire contemplation, contemplation. La femme ne le connaît pas. C'est propre à l'homme. Alors évidemment, on pourrait en faire des bouquins, tout ça, parce que des romans, c'est vrai. Si on va à l'extrême limite de la bêtise, évidemment, si une fille se donne sans aucune profondeur, le type il le voit tout de suite et puis il en profite, hein, et puis c'est tout. Hein? C'est clair. Ça va bien. Il le voit tout de suite. La fête en cinéma, il n'y a aucune profondeur, que ce soit immédiatement le corps. Et du coup, en plus, bon, mais vous voyez, mais cela est vrai pour les 33 degrés d'amour. Il y a des degrés de profondeur de plus en plus grands, plus profonds, purs, plus étonnants, plus splendides, dans la vérité, la signification spontanée du corps de la femme. Et qui jaillit précisément de cette dimension de solitude a subi en elle. Parce qu'elle est toute petite fille de Dieu qui se donne à celui d'où elle sort, si je peux dire. Elle sent la source de Dieu dans celui qu'elle aime. Ça pourrait être évidemment très contemplatif pour ça. Mais une femme est faite pour être contemplative. Alors évidemment, si c'est à ce degré de profondeur du don que l'homme, le découvrant, doit, si je puis dire, s'arrêter, se fortifier, puisque la lumière lui montre ce que la femme n'a pas, elle se donne sans lumière, elle se donne dans l'abandon, elle se donne dans la nuit, s'attend d'une source. Et cette source, elle vient de la grâce, et la grâce vient par elle. Mais si elle est pleine de grâce, alors la manière de se donner et la signification responsable de son don à travers un corps féminin est très contemplatif, très pur, très virginal, très profond. Alors à ce moment-là, elle a une puissance de libération du péché originel dans l'homme tout à fait extraordinaire. Et les confesseurs le savent, c'est que les jeunes gens, dès qu'ils tombent amoureux et qu'ils reçoivent d'ailleurs cet amour qu'ils accueillent, que d'une petite jeune fille qui est très très pure, qui est très profonde, toutes les anomalies du fonctionnement de leur corps masculin s'arrêtent. Le corps redevient normal. Et toutes les pollutions, tous les machins, c'est fini. Et toutes ces anomalies qui transforment le corps masculin en passoire sont originées dans le fait que les femmes qu'ils aiment ne sont plus pures. Elles ne sont plus femmes. Elles ne se donnent plus dans la pureté, dans la féminité. Elles se donnent hardiment, si je peux dire, par face à face. Oui. C'est pas contemplatif, c'est pas profond. Alors du coup, il y a un arrêt. C'est normal qu'à ce moment-là, le pape Carole, il signale à ce sujet que la honte qui se chevillait à ce moment-là dans le cœur, dans le corps aussi, pas seulement dans le cœur, dans la réaction physique, instinctive du corps masculin, la honte qui en jaillit est beaucoup plus puissante que la honte qui jaillit dans l'impureté, dans le corps de la femme. La femme n'a pas honte. De son corps. Oui. La femme, elle aime bien se regarder avec son corps, elle aime bien le travailler. Elle a beaucoup moins honte. La honte du corps est beaucoup plus forte chez l'homme. C'est pour ça d'ailleurs que le pape Carole, j'ai remarqué que c'est à cause de cette honte que du coup, parce qu'il y a une inacceptation de la part de l'homme que l'union des deux ne se réalise pas dans l'unité responsable, d'une manière humaine. Et du coup, c'est ce qui explique les réactions masculines, qui sont des réactions ou bien violentes, l'agressivité, voyez, de réduction de l'objet et de prise de possession. Et puis finalement, le manque de respect. Donc, qu'il y ait la honte et la pudeur, c'est tout à fait normal. Mais en même temps, c'est le signe qu'on n'a pas trouvé le chemin de l'amour à travers l'intériorité du corps, dans l'unité responsable. Et c'est pas normal, ça. La fonction extraordinairement différente du corps et de l'intériorité masculine dans l'unité avec le corps et l'intériorité féminine du cœur et de la grâce est quelque chose de très 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 étonnant, de très beau. C'est sûr, c'est la femme qui commande la profondeur du don. La pureté du don, ça c'est commandé par la femme. Les, on le sait dans toutes les civilisations, hein, c'est pas du tout un truc nouveau, hein, c'est, tout le monde le sait, c'est pour ça que dans toutes les éducations, de toutes les civilisations, quelles qu'elles soient, de toute la terre, l'éducation de la femme est toujours une éducation vers la pureté. On soigne beaucoup plus la pureté de cette petite fille que celle du garçon. Pourquoi ? Parce que c'est la femme qui commande le degré de profondeur et de pureté dans l'ordre. C'est sûr ça. Bon, mais il faut avancer. On avait terminé la dernière fois par un exercice, n'est-ce pas ? Un petit exercice pour... parce que tout ça, c'est pas des théories, c'est... Il faut aussi connaître, enfin peut-être faire la gymnastique, quoi. Une espèce de gymnastique extraordinaire, une gymnastique de prière, une gymnastique spirituelle et physique en même temps qui permet cette reconquête intérieure, cette reconquête de l'intérieur, cette reconquête intérieure de la signification responsable de mon corps masculin sur mon corps extérieur. Et du coup, ça opère petit à petit. Cette conquête opère petit à petit un rayonnement, puis une fêlure, puis une brisure, puis une victoire sur la honte. Mais si on n'opère pas comme ça, on va essayer de vaincre la honte à la manière freudienne, et du coup on va briser l'éthos de l'éros et du don. C'est-à-dire les lois de la nature. Et du coup, on va briser l'amour et on va le rendre impossible. Il ne faut pas obéir à la honte. Il faut rebondir sur la honte pour rentrer au-dedans de nous en adorant. Alors, je voulais vous lire aujourd'hui. C'est pour ça que je vous avais dit, pour faire des actes d'adoration, dès que vous avez, je ne sais pas moi, un souvenir d'une émotion affective, d'une rencontre, d'un regard, d'une nuit romantique, ou, vous voyez, où l'éros était presque à la limite d'intégrer la finalité intérieure, où l'odeur sacrée était là, la splendeur, le temps s'était oublié, où les grandes émotions, où des grands moments de... Si ces souvenirs nous reviennent, ou si d'un seul coup on se rend compte le soir, tiens, qu'on était mu, on s'en était peut-être pas rendu compte sur le moment, dans la journée, puis le soir on se rend compte, tiens, qu'on était mu, que... Voilà, donc... Ou alors, on en est très conscient au moment où ça nous arrive, alors à ce moment-là, il faut choisir toutes ces possibilités que je vous dis en ce moment. C'est un éventail de possibilités que, sur lesquelles je vous laisse vous-même juge. Eh bien, c'est à ce moment-là, dès que votre corps se réveille et qu'il y a ce mélange de la réaction de la concupiscence et puis de l'étonnement et du désir et de l'admiration, profiter donc de ces moments-là qu'on peut faire rejaillir avec la grâce de Dieu, tout simplement en se remettant en Dieu pour le revivre, et bien faire à ce moment-là, dès qu'on revit un petit peu quelque chose où le corps se réveille dans la profondeur de l'âme, dans la différenciation au fond masculine et féminine, faire grâce à ça et à partir de là un acte d'adoration. Un acte d'adoration où on est catapulté tout à fait là-haut, là-haut, au-delà des cieux, et on emporte avec nous toute la création. Et du coup, tout le côté un petit peu concupiscible, tout le côté un petit peu impudique, tout le côté un petit peu matérialisant ou instinctivant, enfin, je ne sais pas comment dire, vous voyez, ou freudien, ou libidinal, de ce qu'il y a, est emporté par l'intégration. Vous voyez, il est emporté. Il dilue dans l'immaculée éternelle présence de Dieu, et on revient du coup à une union avec cette personne-là, qui soit une bénédiction. Et à ce moment-là, on est devenu ou féminin ou masculin dans l'instant. Et du moins, on a donné une nouvelle forme, vous voyez, une nouvelle détermination sponsale à notre corps. Et notre corps va connaître, du coup, une mémoire sponsale. Grâce aux actes d'adoration. C'est facile, ça, de faire ces exercices. Les gens qui sont mariés, ils devraient faire ces exercices tout le temps. C'est vrai. Même les gens qui ne sont pas mariés. Hein. Et ils verraient petit à petit à ce moment-là que la manière dans les cas que nous sommes en train de préciser depuis la dernière fois, la manière physique et intérieure de réagir dans l'acte d'adoration à l'emportement d'une affectivité qui n'est pas entièrement purifiée à cause des séquelles du péché originel, eh bien, on se rend compte à un visage que la manière dont le corps s'établit dans l'acte d'adoration n'est pas la même selon qu'on est masculin ou féminin. Selon le masculin, c'est pas compliqué, ça fait exactement la même chose quand d'un seul coup vous avez une figure sainte, style, je ne sais pas moi, à imaginer, pure, immaculée, innocente, etc. Oui, mais une vraie sainte, hein. Une vraie sainte. Moi, ça m'est arrivé une fois. Attendez, c'était en rêve, hein. Faut pas le dire. Top, ça veut dire. Une vraie sainte, hein. Innocente, immaculée. Oh, ouais. Ça fait. Vous voyez, c'est, on aurait cru que tous les espaces d'omniprésence de l'univers étaient aspirés, hop, c'est parti. Mais c'est pas l'extériorisation, vous imaginez, évidemment. C'est des intériorisations transcendantales de la masculinité du corps qui s'est mise en route. C'est cette guérison-là. Mais elle est nécessaire pour tous les hommes. C'est le mouvement d'extérieur vers l'intérieur, dans la transcendance du don. Ça, ce mouvement-là est très facile à repérer. Si tu n'as jamais aimé, si tu n'as jamais reçu, accueilli et été ébloui par le don féminin à travers le corps, qu'est-ce que tu veux que je te dise? À mon avis, tu seras incapable de faire un acte d'adoration. À mon avis, quelqu'un qui n'aime pas ne peut pas adorer. C'est physique. C'est physique. C'est comme ça. Alors la personne qui est là, et la corde fait partie substantielle de la personne. Vous voyez ? Ben, la femme, bien sûr, quand elle adore, c'est différent. Puisqu'elle s'abandonne, elle se rappelle ce moment de l'abandon extraordinaire, elle a été accueillie comme femme, dans la pureté intérieure, virginale, respectée, tout ce que vous voulez. Elle a été reconnue et elle a senti l'intériorité, cette énergie, cette force, ce côté éblouissant, ébloui, plus exactement, de celui avec lequel elle était. Et du coup, elle s'est répandue comme des torrents. Elle s'est en Dieu. Oui, elle est sortie d'elle-même, bien sûr, mais si je puis dire, pendant l'adoration, on sort de soi, mais c'est tout à fait différent que l'acte très précis, vous voyez, de l'adoration masculine. Le corps ne vit pas l'adoration de la même manière, selon qu'on est dans un amour éveillé féminin et dans un amour éveillé masculin, c'est sûr. Je ne sais pas comment ça se passe exactement. Je ne pourrais pas vous faire des descriptions vibratoires, n'est-ce pas? Puisque c'est pas une femme. Mais c'est clair. Néanmoins, si une femme se donne ayant précisément cet acte d'adoration et cette unité à ce qu'elle peut livrer dans un nouvel élan et un nouveau ton, quelque chose de ce qu'elle a dans la profondeur de cette adoration, et à ce moment-là, on peut éprouver un effet de ça. Hein? C'est ce qu'on avait vu dans le discours du pape Carole du 8 février 1980, le fameux discours. Alors, je voulais lire un petit passage du Cantique des Cantiques. Vous pouvez les relire dans ces lumières-là. Quelques passages de la Bible, vous voyez. Faut pas prendre le Cantique des Cantiques comme... Faut pas prendre trop vite le Cantique des Cantiques comme une révélation de l'éros. C'est une révélation de la spontanéité, c'est tout à fait différent. De l'époux et de l'épouse, c'est une révélation spontanée. Et donc il y a des évocations qui sont très belles, c'est toujours très joli. Alors voilà. Chapitre 2, verset 1. Je suis le narcisse de ça. Le lys des vallées. Comme le lys entre les chardons, tel ma bien-aimée entre les jeunes vierges. Et comme le pommier parmi les arbres allergés, ainsi mon bien-aimé parmi les jeunes gens. À son ombre désirée, je me suis assise et son fruit est doux à mon palais. Il m'a mené au cellier et la bannière qu'il dresse sur moi, c'est l'amour. Soutenez-moi avec des gâteaux de raisin. Ranimez-moi avec des pommes parce que je suis malade d'amour. Vous voyez que la rencontre physique et spirituelle et divine de l'homme et de la femme est exprimée ici à travers le narcisse et le lys des vallées. C'est-à-dire que la force, c'est l'homme, ça, et la pureté. Et la femme est repérée, elle est reconnue comme un lys. Par celui qui la découvre comme étant quelqu'un qui se donne de manière pure, c'est-à-dire par amour à lui. Pas de manière intéressée, vous voyez. De manière désintéressée, gratuite, pure. Et il la reconnaît. Alors du coup, il la reçoit. Et du coup, eh ben, elle se reçoit comme son épouse. Et du coup, et si je puis dire, à ce moment-là, elle éprouve et elle reconnaît ce qui se passe à l'intérieur de l'époux lorsqu'il est aimé par elle. Comme le pommier parmi les arbres d'un verger, ainsi mon bien-aimé parmi les jeunes gens. Et parmi toutes les femmes du monde, il y a la pureté du don. C'est pour ça qu'elle est femme pour lui. Tandis que l'homme pour la femme, c'est symbolisé par une espèce de verger, c'est un immense champ, avec beaucoup d'arbres, beaucoup d'ombres, beaucoup de fruits, beaucoup de choses savoureuses. Alors, à son ombre désirée, je me suis assise. Eh bien, la relation intérieure de la signification responsable du corps féminin, de l'intériorité affective de son cœur, lorsqu'elle est dans la plénitude de la présence de l'amour et des sources de l'amour de Dieu, instinctivement, il y a quelque chose qui se fait, c'est qu'elle s'abandonne, elle se repose, elle s'allonge à l'intérieur du verger, dans l'ombre de l'époux. Vous voyez, c'est vraiment un abandon, un repos. Et s'enfouir et tout à mon palais. Alors elle savoure l'odeur de la signification sponsale du corps masculin qui a été réveillé par la splendeur de la pureté de son âme. Hein. Et du coup, effectivement, il se redonne dans cette même profondeur. Mais du coup, il y a une immensité qui s'opère, voyez. Il y a un ombrage. Il y a un repos. Il m'a mené au cellier, c'est-à-dire dans ce qu'il voit. Le cellier, voyez, c'est ce qu'il y a au sommet de la maison. Et c'est là où on met tous les fruits. Et c'est ce qu'il donne sur la terrasse. Parce qu'elle a réveillé en lui la vie, la pureté, et du coup, il est contemplant. Et la bannière qu'il dresse sur moi, c'est l'amour. Oui, parce que du coup, il y a une réciprocité. Et cette bannière est une victoire. C'est la victoire sur Satan. C'est la victoire sur la concupiscence. Soutenez-moi avec des gâteaux de raisin. Et les gâteaux de raisin, c'est extraordinaire. C'est du pain, le fruit de la terre, du travail des hommes, et du vin séché dedans, le pain. Il y a ce désir du coup du sacrement, de mariage. Soutenez-moi. Il faut soutenir ça parce que, bien évident, il est bien évident que là, petit à petit, on commence à percevoir qu'il y a là la matière d'un sacrement, des pains, des gâteaux de raisin. C'est extraordinaire. Le pain, ça représente quoi dans l'unité sponsale pour le point de vue du sacrement? C'est quoi le pain? Mais le pain. C'est la couleur verte, c'est cette unité, c'est cette ombre, c'est ce repos, c'est cette lumière, c'est cette contemplation, c'est cette profondeur virginale et en même temps la contemplation qui se mêle l'un à l'autre. C'est cette unité sponsale mutuelle dans un seul corps, en une seule chair. S'il n'y a plus ni homme ni femme, il y a une humanité intégrale. C'est ça la matière, le corps, le pain. Et le vin, c'est l'odeur du sacré. Ce côté enivrant, le vin, le raisin, qui est le fruit de beaucoup de travail. Parce que vous savez, pour faire la vigne, il faut du travail. Laissez la vigne toute seule, vous allez voir. Il faut prendre un sécateur, il faut couper. Il faut couper ça. Sinon, ça ne donne pas des raisins, ça donne du vinaigre. C'est un truc, un poison. Il est immangeable. Tu prends le sécateur et tu coupes les serments. Presque tous d'ailleurs. Dans certaines vignes, ça dépend. Il faudrait faire toute une théologie sponsale sur la manière précisément dont en Italie on émonde la vigne. Ou dans le Beaujolais. Vous voyez? Ou ailleurs. C'est extraordinaire ça. C'est la nature qui a voulu qu'il y ait des vignes. Et Dieu donc a voulu qu'il devienne, c'est ce que je veux dire, n'est-ce pas, la nature. Mais c'est immangeable s'il n'y a pas un travail de purification, d'émondation, de séparation. Parce que si tu ne coupes pas les serments du vin, la sève ne te part. Ouais, ça, la chasteté, sans la chasteté, rien à faire. Et ça demande beaucoup de travail d'arriver à la matière du sacrement. La sève, ça demande beaucoup de travail. Ce travail vient de la sève. Et la sève vient de la terre, c'est un travail du corps. Et c'est un travail de vie. Et la pression vient de l'amour. Mais sans ce travail, il n'y a pas de raisin. Et là, c'est des gâteaux de raisin. C'est extraordinaire d'en faire ça. Il faut beaucoup de temps. Quelqu'un me disait hier, dans le mariage, quelqu'un qui est marié. Là, il faut beaucoup, 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 beaucoup de temps pour que on soit vraiment deux, qu'on soit trois. Il faut beaucoup de temps, il faut beaucoup de temps pour qu'il y ait un amour humain. Et ça ne se fait pas en 10 ans. Ça ne se fait pas en 10 ans. Il faut beaucoup de temps. Mais attends, ce n'est pas une vieille, hein. Complètement. Enfin bon, bah, d'accord, j'ai vu. Beaucoup de temps, mais ça m'a beaucoup plu de sa part parce que moi je l'ai connu, jeune, et je peux vous dire, donc comme vous la connaissez pas, c'est pas grave, c'est bien, je peux vous dire qu'elle n'était pas responsable du tout, hein, l'acidification responsable du corps, elle ne connaissait pas, hein, pendant jusqu'à 30 ans. Hein. Ça donnait du bien vu, hein, il n'y avait pas de sécateur. Hein. Alors bon. Beaucoup de temps. Et en fait, l'amour vient avec beaucoup, beaucoup de temps, beaucoup de fidélité. Et vient pas à cause de, des sentiments, des passions, tout ça. C'est tellement fort, comme dit l'amour. C'est pas du tout, à cause de ces sentiments, de ces passions, de ces trucs-là. Mais alors, qu'est-ce que c'est fort, tu sais? Bon. Sympathique, vous voyez, c'était hier. Sans arrêt, on a un laboratoire ambulant permanent. Vous avez tous vos amis, vos frères, vos soeurs, vos cousins. Je vous en conjure, fille de Jérusalem, par les gazelles, par les biches des champs. Ne réveillez pas mon amour avant l'heure de son bon plaisir. Je vous en conjure, il faut attendre l'heure. Je vous en conjure, il ne faut pas être pressé. Il faut attendre l'heure. L'heure, c'est quand il y a des gâteaux. Ça, c'est la matière, vous voyez. Donc, quand dans le mariage, Jésus a dit, mais c'est formidable. C'est formidable. À cause de la volonté de Dieu, ils parviennent à la grâce, dans l'amour, où le cœur, l'âme, l'esprit et la différenciation sexuelle sont engagés dans la virginité et tout ça, pour réaliser la communion des personnes en une seule chair, tout est là, tout est prêt, mais si c'est pas, il y a encore quand même le danger, il y a encore toujours la tentation, il y a encore quand même les séquelles, il y a encore l'orgueil, il y a encore la vanité, ça. Je peux te dire, attends, si tu crois que... Bon, il y a encore tout ça, qu'on le veuille ou non, il y a encore là. Il faut aller, il faut que Jésus vienne, enfin il faut que le Messie vienne, il faut que le Bereshit, à partir duquel Dieu a tout créé, le Bereshit, vous le savez, le Bereshit, c'est le Messie, hein. C'est la grâce messianique, c'est la grâce sanctifiante du Messie, c'est la vie divine qui se rassemble pour qu'il y ait création à partir de la vie divine. Ça donnera la grâce, ça donnera Jésus, substantiellement. Mais vous voyez, le Messie, c'est dans le Messie, dans le Bereshit, que Dieu créa le ciel et la terre. Le ciel, c'est la signification responsable, c'est ce qu'il y a de plus grand dans l'image ressemblance de Dieu du monde créé spirituellement par Dieu. Et la terre, c'est le corps. Alors, les gâteaux de raisin, il faut qu'ils soient replongés, voyez, cuits au four du Messie. Et une fois qu'il est cuit, c'est l'offertoire. Eh bien, il pourra recevoir un sacrement. Il pourra être transformé, enfin, être le lieu d'un sacrement. Mais tant que le gâteau de raisin n'est pas cuit, ne réveillez pas mon amour avant l'heure du bon plaisir. Vous voyez, il faut vraiment aller jusqu'au bout de la préparation. Mais c'est pas la préparation au mariage au sens où on le dit, préparation au mariage au sens où on le dit dans les paroisses et les diocèses, bien sûr, les paroisses et les diocèses disent qu'il faut faire la préparation au mariage. Mais la préparation au mariage telle que tu le veux, c'est ça. C'est la mise en place de la signification sponsale du corps. C'est que je découvre que Dieu n'est pas une imitation. Que Jésus, que d'être plongé dans le principe du Messie, ça fait que je suis tout à fait moi-même, et que Dieu est tout à fait lui-même dans sa création. Et que du coup, tous les deux, un amour vraiment très très fort commence, et ne pourra plus jamais s'arrêter. Cantique des Cantiques, chapitre 3. Verset 1 sur la nuit, j'ai cherché celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé. Je me lèverai donc, je parcourrai la ville. C'est quand l'heure du bon plaisir, voyez. Dans les rues, sur les places, je chercherai celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché, et je ne l'ai pas trouvé. Ben, c'est Pascal qui disait qu'il ne m'aurait pas cherché, s'il ne m'avait pas déjà trouvé. Mais une fois éveillé la signification responsable du corps et l'amour entre les deux, et le corps déjà mis en place dans le centre de gravité du gâteau de raisin, n'est-ce pas? Pour que le gâteau de raisin soit à point, on voit bien qu'il y a des trucs encore à couper. Alors on passe chez les gardiens. Comme dit Rabbi Anassi, puisque c'est Rabbi Anassi qui a demandé au concile de Yavna en l'an 200, non, pas tout à fait, en l'an, qu'est-ce que je raconte, en l'an 70 ou quelque chose comme ça, après Jésus-Christ, qui a demandé que le cantique des cantiques soit inscrit au canon des Écritures. Vous ne connaissez pas l'histoire de Rabbi Anassi, c'est une histoire extraordinaire, c'est que Rabbi Anassi, c'est un type extraordinaire, c'est un juif, il ne s'était pas converti à Jésus. Il se fichait de tout. Il se fichait de la Torah, il se fichait du commandement, il se fichait des hommes, il se fichait pas de Dieu, mais... Et puis un jour, il y a une femme, une jeune fille, une splendide, extraordinaire, qui rencontre une jeune fille extraordinaire qui, et puis il dit ça c'est ma femme, ça c'est certain, et d'ailleurs réciproquement, mais elle disait non, tu ne te marieras pas avec moi avant l'heure de mon plaisir, tu ne te marieras pas avec moi tant que tu ne connaîtras pas parfaitement toute la Torah. Parfaitement toute la Torah, et le pauvre, gloire à Dieu, n'est-ce pas? La Torah, c'est l'impératif de l'amour de Dieu et du prochain en un seul acte. Hein, les 613 préceptes pour y arriver par des exercices continuels. 613 méthodes. Et du coup, il l'aimait tellement qu'il s'est mis alors avec une ferveur, une assiduité. Il s'est devenu un des plus grands maîtres, un des plus grands rabbins. Et il était l'équivalent de Yonatan Ben Zakkai, c'est pas peu dire. Vous savez, Yonatan Ben Zakkai, c'était des... Et donc, vous savez, quand Jésus a été crucifié, il y a eu des problèmes après. Il y a eu des problèmes pour les Juifs, donc ils ont été obligés de dégager vers les rives. Vers les rives, ils ont dû quitter Jérusalem. Jérusalem a eu une première destruction, tout ça, après, par les Romains, tout ça. Bref, ils ont eu la permission de se mettre là, colonie juive, en refusant Jésus comme Messie, mais vivant de la Torah. Et ils ont du coup décidé, puisque la tradition orale, avec Jésus, il a été fait prisonnier, ils ont presque tous été massacrés, et lui, ils l'ont écorché vif. Les Romains l'ont écorché vif. Et tandis qu'il était écorché vif, eh bien, il prononçait Shema Israël, Adonai Eloheinu. Adonai Ra. L'amour de Dieu à travers un corps déchiré. Tout le long, et il est mort en disant Shema Israël, écoute Israël, le Seigneur est ton Messie, le Seigneur est ton Dieu. En étant déchiré dans sa peau. Vous voyez ? L'amour, pour lui, c'est l'amour passé à travers le corps et l'amour de Dieu aussi. C'est magnifique, Rabbi Anassi, c'est à tout comptoir, le cantique des cantiques, dans ce canon des Écritures. C'est Salomon, hein, qui a été inspiré. C'est, Sarah, bien, merci contre toi. Vous saviez ça, je suis à ce moment-là, sur ma couche. Donc la nuit était, je chercherai, se dit mon querelle, je vais chercher quand est-ce que viendra cette heure alors. Et on demande à ceux qui connaissent la Torah, on connaît, à ceux qui sont contemplatifs, à ceux qui sont les nashim d'Israël, à ceux qui sont des saints, aux docteurs de l'amour. On le demande à Jésus, on le demande au Messie, on le demande partout, on le demande au Saint-Esprit. On demande conseil, on demande au pape Carole. Bon, on ne va pas rentrer dans le mystère de la spontanéité parce que c'est le pape qui l'a dit, comprenez bien. Mais que le pape nous ait... On demande à tout le monde. Et après, on les dépasse. C'est-à-dire que... Et effectivement, c'est ce que dit le cantique. Le cantique avait pourvu celui que mon cœur aime, les gardes m'ont rencontré, ceux qui font la honte de la vie. Et je leur ai dit, avez-vous vu celui que mon cœur aime? À peine les avais-je dépassé. Ça veut dire qu'ils ont dit oui, allez par là. Et j'y suis allé, voyez, dans la responsabilité. J'écoute ce que dit la Torah, j'écoute ce que dit Rabbi Anassi, j'écoute ce que dit Marie. J'écoute ce que dit Jésus, j'écoute ce que dit le pape Carole, j'écoute ce que dit le corps mystique vivant tout entier. Vous voyez ? À peine les avais-je dépassés, j'ai trouvé celui que mon cœur aime. Je l'ai saisi, ténoui, et je ne l'ai pas lâché. Nec dimittam. Ça y est, l'indissolubilité commence. Ténoui, je le saisis et je ne le lâcherai pas. Que je ne l'ai fait entrer dans la maison de ma mère, dans la chambre de celle qui m'a conçu. Dès lors que j'ai trouvé, voyez, dans la matière du sacrement, cette unité sponsale, dans cette présence de Dieu, au-delà du voile, de la doctrine, au-delà du voile de l'expérience, au-delà du voile. Parce que cette fois-ci, c'est moi, c'est l'incarnation de notre unité des deux que je saisis. Ça, je ne lâcherai pas. Jusqu'à ce que je l'ai fait entrer, pour l'assumer, dans la chambre de ma mère, dans le lit de celle qui m'a conçu, la conception. Jusqu'à ce que j'ai fait rentrer cette unité dans le lit où cette conception, où cette unité sponsale, mais en même temps moi-même, dans la signification sponsale de mon corps, et lui, si c'est, ou la mère, ou elle, dans la signification de ce moment, ont été conçus, au fond, dans la liberté d'innocence originelle, divine, vous voyez. Et c'est là qu'on se rend compte qu'on a été créé par Dieu l'un pour l'autre, et qu'en même temps, il a créé un troisième. Dans les sources de cette unité des deux, a été créée par lui. Et je ne fais pas, dès que j'ai découvert, dès que j'expérimente, dès que je comprends, dès que je saisis, ça, je ne peux plus partir. Je ne lâcherai plus. Je tiens à ça. À ce moment-là, le gâteau présent est prêt. Et je peux recevoir le sacrement de mariage. Vous voyez, c'est ce qu'on disait. Si la signification sponsale du corps est là, si la reconnaissance des deux dans l'abandon et dans l'accueil, en même temps que la force du cèdre du Liban, le lys des vallées, c'est la pureté de la femme, le cèdre du Liban se dresse, c'est l'homme, et puis ça fait des immensités. C'est vrai, et je le disais, nous le disions ensemble, la forme même intérieure des organes du corps masculin et la forme aussi morphologique, etc., et le fonctionnement vivant des organes qui sont des organes féminins, c'est aussi un livre ouvert qu'on peut lire aussi pour voir justement à quel point c'est différent en Dieu de découvrir cette unité à sa source. Cette source est en Dieu. Elle est dans le Bereshit, elle est dans le Messie. Elle est dans le Messie. C'est sûr, on dit sert au repos du sang hein, qui coule. Ce sang qui coule, c'est vrai, ce sang qui coule tout le temps, régulièrement. C'est beau, ça. La femme, elle est faite pour se donner dans la nuit, gratuitement. Une femme qui cherche à maîtriser le terrain, c'est plus une femme. C'est une mégère. Avec tout le respect que je dois aux mégères, n'est-ce pas ? On ne maîtrise pas le terrain. On donne, c'est tout, gratuitement. Pas bêtement, pas imprudemment. De manière virginale, limpide et pure, c'est tout. Donc c'est intelligent, forcément, puisque c'est l'intelligence du don. Mais c'est gratuit, ce sang qui sort. On donne sa vie. En fait, on donne sa vie, parce que le sang, ça représente la, l'âme palpitante profonde qui est en moi, même que je n'arrive pas à atteindre par moi-même, qui palpite dans l'incarnation de ma vie. C'est ça le sang, hein. Je ne vais pas donner gratuitement. Dieu a fait en sorte que cette vie soit donnée gratuitement, régulièrement. C'est beau, ça. C'est beau. C'est vrai, c'est beau. Et quand l'Écriture parle de la femme, elle parle toujours, de... Pourquoi ? Parce qu'elle déborde, hein. Une femme déborde. Un homme est toujours comme un sept vivant, hein. Une force, quoi. Ma maison de Dieu, hein. C'est Narcisse. Narcisse, c'est au milieu du désert, vous descendez en dessous de Jérusalem, il y a du sable, la mer morte. Il n'y a rien qui vit, puis vous avez les Narcisses de Saron. Une fleur rougeoyante, en pétulance. Dans le désert, il y a la signification spontanée du corps masculin. C'est beau, ça. Je suis victorieux de tout. Ça vit toujours, ça. C'est beau, c'est des symboles qui sont beaux, c'est vrai. Ouais, c'est des symboles qui sont beaux. Et la femme, toujours représentée. C'est vrai, la femme, dans sa splendeur, est enceinte. Les formes de la maternité sont plutôt circulaires. Et c'est vrai, il y a l'intériorité du ventre de la femme est évidemment sous forme de vallée, de cuvette, je sais pas. C'est l'homme, c'est évidemment que c'est différent, puisque c'est la lumière qui domine sur la femme, c'est la profondeur de l'amour, la pureté de l'amour, la pureté du don. Et les formes même de la physiologie le montrent, ça. Le cercle, voyez, en symbolique, le cercle, ça représente l'éternité. Et le temps, vous voyez, c'est beau. Dans la femme, le corps féminin exprime beaucoup ça. Vous voyez, l'éternité, c'est-à-dire Dieu, c'est Dieu qui fait sortir la femme. Et le temps, elle donne sa vie régulièrement, gratuitement, naturellement, pour rien. C'est cette tension qui est entre l'instant présent, le temps et l'éternité. C'est ça. Et quand elle est introduite, parce qu'elle est accueillie, qu'elle se repose à l'intérieur du corps de l'homme, eh bien, c'est cette tension entre l'éternité et le temps, dans l'instant présent, qui rassemble les immensités. Les immensités humaines, parce que l'homme, vous voyez, c'est tout l'espace. C'est pas le temps, c'est l'ensemble de l'univers. On le voit bien dans la signification responsable de la solitude. L'homme porte la bénédiction des dieux. Et c'est lui qui porte la bénédiction des dieux. Parce qu'il ne faut pas dire que dans le récit qu'on donne, vous savez, d'Anne Catherine Emmerich, par exemple, ou de la Genèse, on se dit, oh ben alors l'homme, il est privilégié dans cette histoire. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Non, non. Mais c'est l'homme qui porte la bénédiction des deux. Et c'est lui qui, dans la signification responsable de la solitude, absorbe, maîtrise, absorbe, retient, recueille tout l'univers comme un don. Et se donne à travers ça comme don à Dieu qui est source de ce don pour que Dieu se donne lui-même à lui dans la signification responsable de sa masculinité, c'est vrai. Et c'est sûr que quand la femme vient se reposer en lui, ça rend possible cette fructification de tous les champs de l'univers. Les pommiers, les cèdres, tous les déserts fleurissent comme narcisses de savoir. C'est l'espace, voyez. C'est l'ensemble de l'univers, voyez. Il faudrait dire ça à Emmanuel Kant. Deux formes a priori de penser, l'espace et le temps. En disant qu'il n'a rien compris de la responsabilité. Il dit c'est des formes a priori de la sensibilité. Emmanuel. Mais non. De la signification sponsale, quand. Et du coup, pour lui, c'est quelque chose qui vient de l'imaginaire. Et c'est ce qui fait qu'on n'appréhende pas la substance des choses. C'est terrible, hein, d'être protestant. Et on échappe. On échappe à la signification sponsale. Faut être catholique, faut être universel. Je veux dire, c'est pour prendre tout ce que Dieu a donné. Pour tout rassembler. Et ça, petit à petit, ça y est, le catholicisme est prêt. Vous vous rappelez qu'on avait lu le chapitre, on avait lu l'Apocalypse, à la fin, Jérusalem, présente la féminité au sommet. Il va y avoir ce sacrement, et puis il va y avoir du coup Jérusalem, il va y avoir la grâce, il va y avoir la gloire, il va y avoir Dieu, il va y avoir la victoire, il va y avoir l'agneau, il va y avoir Jérusalem, toute la féminité du Verbe dans toute sa splendeur, et dans un corps complètement sponsal, glorifié. Vous voyez, c'est beau ça aussi. Bon, mais vous pouvez lire l'écriture tout le temps, en pensant à la sponsalité, vous verrez que nous découvrirons toujours plein de choses. L'ange me montra le fleuve de vie, limpide comme du cristal. Dans l'unité des deux, vous voyez, il y a quelque chose d'extraordinaire. Il y a la vie qui est donnée. Mais il y a autre chose dans le corps féminin. C'est que régulièrement, vous voyez, du côté de Jésus est sorti de l'eau et du sang, pour rien. Un dernier coup de sang. Et l'Esprit Saint. Les trois témoignent. Saint Jean qui dit ça. Dans le corps féminin, vous savez bien, régulièrement, au jour sommet, c'est l'eau. Enfin, si je puis dire. Bon, en langage scientifique, etc., on appelle ça glaire cervicale. Mais, je m'excuse, mais elle est toute liquéfiée. La femme donne, elle est toute liquéfiée. Une liquéfaction qui se fait. Ça, c'est un phénomène qui ne se réalise pas dans le corps masculin. Enfin, je m'excuse. Il y a toute une lubrification, une transparence, hein, parce que c'est tout transparent, tout doux, tout limpide, tout liquide, tout vivant aussi. Bon, c'est ça qu'on devrait expliquer, je pense, dans certaines écoles, n'est-ce pas, plutôt que comment est-ce qu'on fait pour s'accomplir par devant ou par derrière. Parce que c'est honteux ce qu'on dit aux élèves. Moi, on m'a montré ce qu'on donnait aux élèves en CE1. C'est scandaleux. Pour les former, oui, en CE1. C'est incroyable. Bon, donc, cette eau qui coule comme ça, pareil, gratuitement. Oui, la liquéfaction du cœur, la liquéfaction de l'âme, la pureté, régulièrement à son heure, bien sûr, à l'heure de Dieu, à l'heure de la nature, à l'heure de l'amour, je veux dire, la rend rend la femme toute intérieure. Elle s'approfondit physiologiquement, elle s'approfondit, puisqu'à l'intérieur, tout recule de 3 cm. S'approfondir. Elle est toute vivante. Mais la liquéfaction, regardez ce que dit Saint Jean de la Croix, dit que l'amour liquéfie. C'est beau ça. Et dans l'unité, on appelle ça jour sommet souvent. Ça veut dire, symboliquement, ça veut dire quoi? Et tout ça, évidemment, quelquefois cette terre, elle a d'autres fonctions, quelquefois elle s'épaissit, elle devient collante, elle devient bloquante. Ça, c'est les quatre aspects de cette eau. Un peu comme l'eau peut devenir de la glace, plus vaporisé, qu'on peut couler d'une source. C'est pas pareil. La terre claire aussi, elle a quatre moments dans le cycle de la forme. Mais si vous regardez la fonction de cette eau, mais d'une manière vraiment pure, vous vous rendez compte que, et c'est ce qu'expliquent d'ailleurs les physiologues, ils disent, ben, elle a une fonction par rapport à la vie, qu'elle pourrait recevoir de l'homme. Et je crois qu'elle a 11 fonctions. Ouais, la vie qui descend librement de la femme régulièrement a 11 fonctions différentes par rapport à la vie qui pourrait venir de l'homme à l'heure du bon plaisir de Dieu. D'abord, je crois qu'elle l'attire. Puis ensuite, elle le dynamise, fortifie. Ensuite, elle le pousse pour le faire rentrer, pour intérioriser, pour faire rentrer plus profondément, plus loin aussi de. Ensuite, elle le nourrit. Ensuite, elle le purifie. Ensuite, ensuite, elle le bloque. Si c'est pas l'heure, elle le bloque. Elle ne bloque pas l'homme, hein, elle bloque c'est la vie de la femme qui bloque la vie, parce que c'est pas l'heure. Elle le met en réserve. Il faut voir tout ça, sur quoi ça correspond entre la relation entre l'homme et la femme dans l'unité sponsale. Il y a tout un bouquin là-dessus. Et je sais que je le fais, ça, moi, personnellement, quand j'ai des gens qui sont mariés. On fait ça. Si on regarde les fonctions mystiques de l'homme, entre l'homme et la femme, à partir, par exemple, du sang, de la claire, des organes, de tout ce que vous voulez, c'est-à-dire des lois, des finalités naturelles, des lois de la nature, on n'est pas fabriqué pareil. Donc, psychiquement, affectueusement, spirituellement et surnaturellement, c'est toujours un amour de complémentarité. Et on ne peut pas réclamer un amour de similitude. C'est la complémentarité. Oh, moi, je donne toujours ça, et lui, pas. Ce cas, c'est pas pareil. Souvent, j'entends des femmes, combien de fois j'ai entendu ça? Il ne parle jamais, c'est ça, avant il me parlait, maintenant il ne parle plus du tout, il est là à la maison, tadadana. Alors moi, je réponds toujours, mais c'est pas une grandesse, ça. Alors, c'est vrai, je te vois pas tout le temps causer, on cause pas, on est tranquille, on est là. C'est tout. Narcisse. Mais ça rentre, c'est normal. C'est pas. Pourquoi est-ce qu'il faudrait qu'on donne la même chose que l'autre alors que c'est terrible cette espèce de réduction à l'objet? Pour avoir donnant, quoi. La même chose. C'est terrible, ça. Pour la libération de ce parfois. Bon. Alors, donc, je m'excuse, ça n'a rien à voir, mais voyez, c'est ce que m'évoque ce beau passage. Ce beau passage de Jérusalem, ces portes restent ouvertes le jour. Il n'y a pas de nuit. On viendra lui porter les trésors, le faste de toutes les multitudes. Ah, c'est beau ça aussi. Rien de souillé, ça c'est la réponse de l'unité responsable dans la femme, ça. Vous voyez, l'homme c'est vraiment tout l'espace, tout l'omniprésent de Dieu dans l'univers. La femme c'est le temps, l'instant, l'éternité, la profondeur de l'amour. Dans l'unité des deux, lorsque ça se retrouve dans le corps de la femme, ça produit le rayonnement des énergies de l'homme dans les multitudes. C'est pour ça que l'Église donne le rayonnement des énergies du Messie dans les multitudes humaines. ses portes resteront ouvertes, rien de souillé n'y pourra pénétrer. À l'heure indispensable, tout est pur. Ni ceux qui commettent l'abomination et le mal, pas de place pour ceux qui ne vivent pas de la présence de Dieu dans la mémoire originelle du corps, dans le génome. Pas de place pour l'abomination de la désolation, pas de place pour quelconque complicité avec ceux qui veulent souiller l'origine de la créature de Dieu dans la première structure. Du dedans, puisque c'est le contraire, on vient de le dire. Je tiendrai, je ne lâcherai plus jusqu'à ce que je l'ai fait pénétrer dans le corps, dans le champ de la mère, dans celle qui m'a conçu. Le lieu de la conception, c'est extraordinaire. C'est 19 heures. 19 heures. L'immensité du monde présent dans l'ovocyte de la femme dès que le petit spermatozoïde est rentré et qui, dans un seul instant, à l'heure de la femme, à l'heure de Dieu, fait produire un premier génome avec un acte créateur de Dieu. Ça, c'est extraordinaire. C'est complètement incroyable. Cette expiration de l'unité sponsale dans l'explosion divine d'un quatrième être. C'est les retrouvailles d'une origine qui se renouvelle et se multiplie. L'origine, c'est très important dans l'unité responsable. Puis l'ange me montra, mais aucun de ceux qui commettent l'abomination et le mal, mais seulement ceux qui sont inscrits dans le livre de vie et de l'agneau, seulement ceux qui vivent de l'unité responsable, celle qui est inscrite dans la finalité de ma moitié responsable. Ma moitié responsable est originée en Dieu. Elle se trouve dans la gloire du ciel, dans la résurrection, pour l'éternité. Est inscrite dans l'île de vie. Et bien dans la responsabilité, c'est ça les gâteaux de raisin. À un moment donné, on sent l'origine divine de toute la féminité de son don, et on sent aussi la sainteté finale de la résurrection de celui qui se donne à moi dans la sainteté du don. Ce livre de vie de l'agneau, mais c'est pas ça que je voulais lire. Chapitre 22, verset 1 et 2. Puis l'ange me montra le fleuve de vie. C'est pour ça que je vous ai parlé de la liquidité de l'eau de vie, n'est-ce pas? Mais limpide comme du cristal, c'est qui jaillissait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de part et d'autre du fleuve, il y a des arbres de vie qui fructifient 12 fois, une fois chaque mois. Oui, c'est beau ça. Et les feuilles de ces arbres peuvent guérir les païens, les goïms. Je ne sais pas si vous voyez, c'est toute la féminité de la Jérusalem céleste qui est la manifestation du Christ, qui lui-même est la manifestation du Verbe lorsqu'il s'engloutit dans le Père pour produire l'Esprit Saint. La triple responsabilité qui est là, eh ben, elle s'exprimera dans la gloire du ciel avec un rite. Avec un rite. 12 mois. Vous savez, dans la Bible, c'est toujours c'est jamais des mois solaires, hein, c'est des mois lunaires. Hein. C'est les mêmes mois que la femme. La même régularité. Ils produisent toujours des fruits. Et les feuilles guérissent les païens. C'est-à-dire, proposent aux païens de faire comme eux et de trouver à leur tour la signification sponsale de leur corps, la spiritualisation du corps et leur corps spirituel. Pouvoir à leur tour rentrer dans la fécondité d'un amour qui intègre le corps, l'âme et l'esprit. Toute l'écriture parle de sponsabilité, si on veut bien regarder, n'est-ce pas? Heureusement. Heureusement, c'est vrai. Alors, ce qui fait qu'à ce moment-là, à un moment donné, on sait que Dieu. On sait que Dieu, on sait que Jésus, on sait que notre origine et notre fin, à nous trois, c'est-à-dire l'homme, le fiancé, la femme, la fiancée, et l'unité des deux, on sait que nous avons besoin d'un sacrement. On sait, à un moment donné, on sait que tout est donné. On le voit. C'est notre corps lui-même, notre. est tellement saisi en dehors de la concupiscence et dans la plénitude de son actuation, dans la différenciation sexuelle, dans le cœur, dans la chasteté, bon, tout ça d'accord, etc., etc. Bon. Et on voit que tout ça c'est donné, c'est un don qui ne peut pas venir de nous, c'est impossible. Avoir qu'on soit masculin et féminin, il y a des gens qui pourraient croire que, comme pour le. Comme pour. Oui, comme pour. Après tout, hein, oui, c'est comme l'âne et la neige. Hein, donc, ou l'hippopotame et l'hippopotamesse. Non, non, ça c'est. On découvre que c'est donné par autre chose que la nature. On s'aperçoit que c'est un don, on est un don. On s'est donné et on peut tout donner à travers ça. Et toute la création, et on le voit bien aussi, hein, toute la création. Enfin, toute l'Église aussi, toute l'humanité peut passer à travers nous pour se baigner dans notre unité spontanée et être bénie par le Christ. Alors on a besoin d'un sacrement parce qu'on ne veut pas rester stérile du point de vue spirituel et du point de vue du ciel et de la terre. Alors du coup, on réclame un sacrement. Et le sacrement va prendre la matière de ce sacrement que nous avons essayé de mettre en place depuis 4-5 fois. Et qui est symbolisé par partie du cantique par ce gâteau de Pessah. Quand vous allez à la messe ici, vous voyez, on offre le pain, on offre le pain. On n'offre pas des gâteaux de Pessah. C'est beau ça, c'est pour exprimer qu'il y a une analogie et une comparaison à faire, si on veut comprendre, entre sacrement de mariage et sacrement ici, du Christ et de l'Église. Hein? Et il y a quelque chose de très fort, parce qu'effectivement, du coup, et on le verra ça sans doute une fois, on passera une fois entière à regarder ça, comment les paroles qui sont ici, dans le sacrement du Christ et de l'Église, et les paroles et les gestes intérieurs que Dieu opère dans la plénitude de transformation surnaturelle du sacrement de mariage, sont valables pour l'un et pour l'autre, notamment. Notamment. Et effectivement, il y a l'offertoire, à un moment donné, on s'offre un sacrement. Et il va y avoir cette prise, notre perfection, pour que la perfection, la présence réelle, hein, efficace et incarnée du Christ et de la Jérusalem céleste, établisse sa présence dans notre unité spensale pour donner des feuilles de l'arbre de vie aux païens et aux multitudes. Sauf que le sacrement de mariage n'a pas pour seule fécondité d'avoir des enfants, c'est pour ça, mais elle a pour fécondité principale d'avoir des enfants de Dieu sur toute la terre. C'est pour faire comprendre ça qu'il y a des enfants dans la famille. Je tiens à vous dire une chose, c'est que il faut qu'il y ait le plus d'enfants possible, c'est évident. Quand on est marié, il faut le plus d'enfants possible, il ne faut pas bloquer. C'est pas bien. C'est idiot. Parce que si mes parents avaient bloqué au deuxième, par exemple, je ne serais pas là. Si mes parents avaient bloqué au sixième, ma petite sœur sortait à Marie, elle ne serait pas là. Pour la plus grande détresse des Chinois. Bon, c'est sûr. Et si mes grands-parents avaient bloqué au 14e, ben mon cher oncle Emmanuel, qui est vraiment le sommet du sommet, écoute, s'il y a 200 types à fusiller, c'est le seul que je garde pour qu'ils ne soient pas fusillés. Attends, non, formidable. Si mes grands-parents étaient arrêtés au 14e, on n'aurait pas eu Emmanuel. C'est vrai. Bon, ça n'a rien à voir. Oui, donc je tiens à vous dire une chose, c'est que dans le droit canon, à propos du mariage, on dit ceci. Le droit canon, c'est le droit canon de l'Église catholique, quand même. On disait que la finalité du mariage, c'était... les enfants. Et le pape Carole, ce qui n'est pas faux, ce que je viens de vous expliquer, c'est vrai. La finalité du mariage. Mais Mais le pape Carole a fait changer les trois canons, ou du moins il l'a fait préciser, parce que je vous ai déjà expliqué que l'église catholique, l'église chrétienne, les autres églises c'est pareil, zéro, hein, sur le mariage. Rien, aucune théologie, aucun conseil, aucune voix, aucune lumière, rien. C'était réservé pour les temps derniers. C'est réservé pour la fin des temps. C'est marqué dans l'Écriture. Le dévoilement du mystère du mariage est réservé pour la fin des temps. Donc c'est normal que ça n'ait jamais été explicité. Les gens vivaient, si vous voulez, instinctivement, je parle du point de vue de l'instinct divin, qui était donné au sacrement de mariage. Surnaturellement, il y avait un instinct divin qui s'opérait, c'est sûr, qui était donné, mais qu'on expérimentait, mais on était incapable de l'exprimer, vous voyez, d'en faire une théologie. Jusqu'à avec le pape Carole, on en fait, on commence à le voile est soulevé, d'accord? Bon, alors du coup, dans le droit canon, eh bien, il donne les deux finalités du mariage, la finalité sponsale et la finalité de fécondité. Et on disait toujours, c'est la finalité d'avoir des enfants qui est la finalité principale. Alors, le pape Carole, lui, il nous fait comprendre une chose, c'est que c'est la finalité sponsale qui est la finalité principale, en fait, parce que c'est la finalité source et c'est la finalité finale. Mais c'est vrai que du point de vue sociologique, si vous voulez, ou du point de vue pastoral, les enfants, c'est la finalité principale dans le sacrement de mariage. Pourquoi? Parce que s'il n'y a pas cette intention, c'est le signe qu'il n'y a pas non plus la signification sponsale du corps et qu'il n'y a pas d'unité sponsale. Et le signe qu'il n'y a pas d'unité sponsale, c'est qu'on ne va pas au maximum d'enfants. Si on ne va pas au maximum d'enfants, c'est qu'il n'y a pas d'unité sponsale. Si on bloque ces conditions. C'est pour ça que pape Paul VI, quand il a fait Humane Vitae, eh ben il a dit, quand vous faites des œstrogènes pour bloquer la limpidité régulière de la femme, c'est plus une femme, c'est une bête, et du moins c'est plus une femme, du moins c'est une femme humaine, c'est plus une femme virgine, c'est plus une femme sponsale. C'est une femme femelle, c'est une femme propre. C'est une femme, c'est une présence. C'est une présence féminine, mais c'est plus une femme. Donc, et du coup, vous tuez la femme. Vous tuez, du coup, la signification sponsale de masculine. Vous tuez surtout le troisième, qui lui n'existe plus. Alors lui, il est fusillé. Et pape Paul VI dit, quand vous prenez les oestrogènes, le problème, c'est que vous faites un meurtre. Pas de toi, pas de ta femme, mais tu fais le meurtre de la couleur verte. C'est la troisième création de Dieu, l'humanité intégrale. Et ça a une dimension ontologique et métaphysique et personnelle. C'est donc un meurtre. C'est contraire au cinquième commandement de Dieu, tu ne tueras pas. C'est pas contraire à la pureté ou je sais pas quoi, ou à la chasteté ou ça. Non, non, pas du tout. Pas du tout. C'est contraire au fait, c'est pas parce que ça t'empêche d'avoir des enfants. Non, pas. C'est pas à cause de ça. Tu prends de la pilule, tu vois, tu prends des œstrogènes, et ben, du coup, on pourrait dire que c'est un péché, hein, pape Paul VI, dans Humane Vitae, parce que, à cause de ça, vous ne pouvez plus avoir d'enfant. Non, c'est pas à cause de ça, c'est parce que tu tues ta meurtre. Tu tues l'humanité intégrale dans le mariage. En fond, tu supprimes la matière du sacrement de mariage. Donc, tu fais un sacrilège et un meurtre. Il était prophète, hein, pas possible. Il y a plein de gens mariés chrétiens qui n'ont jamais compris ces choses très élémentaires. Pas pour lui. Il n'a plus. Non, hein. Pourtant, il n'a jamais connu. Elle s'est vierge de sa naissance jusqu'à sa mort. Ça, je peux vous le dire. Allez, c'est sûr. Eh bien, donc le trois canons a été modifié en ce sens qu'il a été précisé, et donc la signification sponsale du corps, l'unité sponsale, est une finalité du sacrement de mariage qui doit être respectée en premier comme source. Et la fécondité doit être poursuivie, si je veux dire, en finalité aussi, mais comme perfection. Donc retenons bien ça. Quels sont les exercices que vous pourriez faire? L'exercice qu'on pourrait faire pour la dernière fois, quand on a essayé d'expliquer la manière de réaliser un jugement d'existence, pour à un moment donné où on se sentait réveillé, ça pourrait très bien d'ailleurs dans une tentation. Vous savez, les tentations quand elles commencent à commencer un petit peu érotiques ou je ne sais pas quoi, hein, ça vous réveille, ça peut arriver, ça, le démon il peut arriver, vous embêtez. Hein. Mais comment le coincer le démon dans ces cas-là? Vite, vous faites profiter qu'il y a des choses qui se réveillent dans votre ébranlement sexuel, hein, et vous en profitez vite pour faire un acte d'adoration pour faire un acte d'adoration de manière à ce qu'il y ait cette espèce de débordement intérieur, de splendeur intérieure qui va tellement loin que ce débordement va jusqu'à dans toutes les immensités intérieures de Dieu, hein, d'accord. Et pour l'homme, c'est un tel déploiement dans une telle intériorisation, une telle acte d'adoration, que du coup on est englouti en Dieu et qu'on transcende tout. Oui. Et donc profiter de ces moments où l'éros commence à se réveiller pour faire ces actes d'adoration, pour le faire en même temps, hein, pour réinverser les phénomènes de concupiscence et passer d'un corps psychique à un corps spiritualisé dans la signification spontanée du corps. Ça, c'est ce qu'on avait dit la dernière fois, d'accord? Bon, vous avez tous fait ces exercices, n'est-ce pas? De manière admirable. Bon, et alors, cet exercice-là, c'est un exercice qui correspond à notre première méditation. La méditation première que nous avons faite, non, la deuxième, pardon, c'est celle où on avait essayé d'expliquer la signification spontanée du corps dans la solitude. Si j'aime quelqu'un, je découvre la signification spontanée de mon corps, je trouve ça extraordinaire. Et plus on aime, plus on est seul. C'est ce qu'a, hein? Plus on aime, plus on est seul, plus on est unique. Moins on est semblable. Quand vous avez une relation de frère et sœur, vous êtes semblable. Mais quand vous avez une relation spontanée, vous êtes complémentaire. Vous êtes dans la spontanéité. D'accord? Et donc, vous êtes de plus en plus seul. Quand vous êtes entre frères et sœurs, vous n'êtes pas seul. Mais la signification spontanée prend tellement de place que du coup, vous voyez que vous êtes unique devant Dieu, de plus en plus. Et totalement différent de l'autre, tout en étant en complémentarité avec lui. C'est pour ça que la signification spontanée de la solitude est quelque chose de très fort. C'est la prise de conscience que j'ai un pouvoir, une relation, et une connexion de lumière et de feu avec tout ce qui existe. Pour l'homme, avec tous les temps, et avec l'éternité de Dieu pour la femme. Et puis si elle aime, avec les multitudes. Ça donne Mère Teresa, mais il n'y a pas que Mère Teresa. Bon, alors, ça, c'est la signification de la solitude. On est seul, grâce au fait qu'on soit masculin ou féminin, et que ça s'est réveillé intérieurement, on commence à vivre une solitude vivante et habitée. Et bien ça, l'exercice que je vous ai proposé, hein, c'est pour spiritualiser le corps de l'intérieur de votre corps féminin ou de l'intérieur de votre corps masculin dans la dimension solitude de l'intériorité spontanée de votre corps. D'accord? Ah, voilà. Que Dieu nous inspire pour que je puisse vous expliquer de la manière la plus juste possible ce qu'on pourrait se proposer de faire. Nous verrons ça la prochaine fois. Pour faire des exercices, pour permettre la transformation naturelle, les retrouvailles avec la finalité naturelle de votre sexualité masculine ou féminine,
spirituellement et intérieurement et lumineusement dans la dimension d'unité.